mettez un préservatif, on n'aurait pas eu 20 ans d'épidémie.
Oui, c'est tout le problème de ce que vous appelez d'ailleurs d'un terme très fort la santé mentale publique, c'est-à-dire au fond ces comportements individuels qui font partie du soin, en l'occurrence, autant que les traitements médicaux, Catherine Tourette-Turgis. Il y a une chose quand même, il me semble, on va revenir sur cette idée de santé mentale publique, sur cette population générale, et il y a une chose qui me frappe quand même comme différence finalement entre le patient, disons, de François Ansermet et le vôtre, la population générale, c'est que la population générale, justement, on peut l'analyser, on peut parler en son nom parfois, mais quand est-ce qu'elle parle elle-même? Quand est-ce qu'elle parle au même sens que Léo Ferré ou Ludwig van Beethoven? Quand est-ce qu'elle dit oui ou non? Quand est-ce que vous l'entendez vraiment, cette parole-là? Ou est-ce qu'on la déduit simplement par des symptômes, par des signaux, et des signaux angoissants, inquiétants, ceux que vous venez de rappeler d'ailleurs?
La population générale, elle parle par son sentiment d'ennui, par sa détresse, elle parle aussi, comme on l'a vu en Italie, par la colère, c'est-à-dire elle fait des manifestations, puis elle dit « nous, on n'est pas d'accord ». D'ailleurs, c'est toujours très important, ces moments de colère, surtout, bien sûr, s'ils sont organisés, parce que ça permet aussi, on l'a bien vu ça dans la lutte contre le sida, la colère, elle était mobilisatrice pour tout le monde.
Une colère avec un but, avec un message
et
d'ailleurs.
Et puis collective.
Oui.
Pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie, au contraire. Et vous-même, François Ansermet, donc dans cette idée que vous évoquiez, qu'il y a une parallèle entre les deux patients, plus qu'un parallèle finalement, un lien très fort. Nous sommes tous à la fois des sujets individuels et une partie de ce collectif. Comment est-ce que vous voyez la population générale, le fait que vous l'ayez pris spontanément aussi comme un patient singulier, comment est-ce que vous le traiteriez d'ailleurs, cet étrange patient collectif?
Oui, cet étrange patient collectif qui est en dialectique avec l'intimité de chacun, je pense qu'on peut le prendre aussi à partir du phénomène de la pandémie. Mm-hmm. C'est-à-dire, comme le disait Virchow, qui était à la fin du 19e, début du 20e, autour de la typhoïde, Virchow disait « une pandémie est un problème social avec quelques aspects médicaux mm-hmm. ». On pourrait dire de même, une pandémie est un problème. Et non pas l'inverse.
Voilà.
On pourrait dire de même, une pandémie est un problème subjectif avec quelques aspects médicaux. Mm-hmm. Je fais un écho à Virchow. Et que, au fond, comment les problèmes sociaux et subjectifs occupent la première place? Parce que c'est quand même la difficulté aussi du traitement de la pandémie. On dit le confinement, les mesures barrières. Mm-hmm. Au fond, il y a des éléments avant le vaccin qui sont connus. Et malgré ça, c'est si difficile d'arriver à maintenir les choses. C'est-à-dire qu'une épidémie, une pandémie, c'est à la fois faire face à l'incertitude et au chaos. On pourrait dire incertitude et chaos sont deux signes majeurs d'une pandémie. Et il est important, comme vous l'avez dit, Frédéric Worms, et comme le dit Catherine Tourette-Turgis dans cette émission, de convoquer les pouvoirs publics, la responsabilité collective, les dispositifs de soins, par rapport à ces dimensions-là, incertitude et chaos, qui touchent tant le côté subjectif que le côté collectif.
Oui, on va revenir d'ailleurs avec vous deux sur les remèdes, les thérapeutiques. Comment est-ce qu'on répond à ces détresses individuelles et collectives? Quel cadre est-ce qu'on doit même proposer pour les affronter? Mais encore un mot quand même, François Ansermet, quand Catherine Tourette-Turgis donne des chiffres, des statistiques, tant de pourcents d'anxiété, de problèmes de sommeil. Dans votre article, Catherine Tourette-Turgis, vous parlez aussi des changements d'habitude de vie, des baisses de l'activité physique, d'un certain nombre de signes. Vous-même, François Ansermet, quand vous voyez ces statistiques, au fond, vous les voyez sans doute comme une vague, d'ailleurs, de virus, arriver ensuite dans votre cabinet avec un visage et une voix individuelle. Mais au fond, cet aspect collectif, cet aspect aussi de santé publique, comment vous l'acceptez aussi comme un fait, ces statistiques finalement, ces phénomènes d'ensemble, avant même que les sujets individuels n'arrivent chez vous?
Absolument, c'est extrêmement important d'être au fait de ces évolutions, mm-hmm. et qu'effectivement on peut dire que, là j'ai introduit l'intime et le collectif, mais je crois que peut-être on peut retourner à Freud qui disait que toute psychologie individuelle est aussi simultanément mm-hmm. une psychologie sociale, une psychologie collective. Je crois qu'on ne peut pas séparer les deux. Là on l'a fait pour dialectiser entre deux intervenants qui ont deux positions différentes, mais je crois que c'est l'articulation entre les deux qui est très importante. Alors oui, ces signes sont des signes d'alerte, des indices de quelque chose qui se passe, l'anxiété, la dépression, mais comme l'a dit Catherine Tourette-Turgis, un phénomène important qui pose beaucoup de problèmes dans la gestion de la pandémie, c'est la rage. C'est une colère collective, c'est une révolte, c'est un refus, c'est un retournement en son contraire. Il y a une dimension d'ambivalence où tout se retourne, la peur en défi, la confiance en défiance, la solidarité en haine. On a vu que les soignants étaient aussi mal pris dans cette situation. Et là, je crois qu'on doit s'occuper de cette autre épidémie qui serait peut-être une sorte d'épidémie, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'un autre type, qui ne doit pas être vu et traité après. Comme vous le dites, Frédéric Worms, ça a déjà commencé. Là tout de suite, c'est même là simultanément.
Mais justement, on a l'impression, en vous écoutant l'un et l'autre, et vos discours se croisent dans un point très, très important, qu'il faut distinguer entre deux colères, j'allais dire, ou deux épidémies de politique, l'une qui serait quand même, c'est ce que disait Catherine Tourette-Turgis, une réponse au fond, la voix même du patient collectif auquel nous appartenons tous, et puis une autre, celle que décrit François Sermet, qui serait quand même non pas une colère exprimant une subjectivité, mais au contraire peut-être refusant le dialogue, se refermant sur elle-même, peut-être destructrice. Est-ce que, Catherine Tourette-Turgis, vous pensez qu'on peut distinguer ces deux réactions, ces deux colères collectives et sans doute aussi profondément, ces deux rages même individuelles, est-ce que vous pensez que de toute façon, même la colère destructrice, c'est mieux que le silence abyssal.
Oui, j'ai suivi moi toute l'enquête là, du CEVIPOF de Sciences Po qui était sur trois variables, l'espoir, la colère et la peur. On s'apercevait qu'il fallait un petit peu de peur pour que les gens puissent se protéger, mais il fallait aussi qu'ils aient de l'espoir. Et quand ils étaient trop en colère, à ce moment-là, on s'apercevait que certaines propositions gouvernementales étaient refusées. Donc on voyait bien que la société, elle battait un peu son cœur, là, entre espoir, colère et peur. Et puis il y a aussi une autre chose que je voudrais ajouter. Il y a quand même deux activités qui ont été réduites pendant le confinement. C'est l'activité professionnelle et l'activité sexuelle. Puisqu'on a 44%, à un moment, il y a une enquête qui dit n'avoir eu aucune relation sexuelle pendant un mois, couple vivant sous le même toit, etc. Et puis après, on a aussi du 15 à 18%, je crois, chez les jeunes qui disent ben non, on n'a plus de libido, etc. Donc je crois que c'est pas rien quand même, quand tout d'un coup, ces activités-là, au fondement justement de la subjectivité, mais aussi de l'intersubjectivité, enfin quand il y a une panne érotique dans un pays, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors bien évidemment, je suis allée voir, donc en Italie, ils ont eu la même chose, parce que je me suis dit, est-ce que c'est la France, est-ce que, bon, en Italie la même chose, en Angleterre la même chose, les Chinois, je crois, n'ont pas, j'ai pas vu leur enquête, ils ont peut-être même pas porté attention à ça, mais nous on s'intéresse à l'activité sexuelle parce que c'est une variable de bien-être du une population. Et donc, si là, il y a quelque chose qui se passe, eh bien, c'est un indice, une alerte que mon fameux patient, la population générale, eh bien, il ne va pas bien.
Bien sûr, donc finalement, entre la maladie et les symptômes politiques dont beaucoup s'inquiètent aujourd'hui, ou bien au contraire les réactions positives politiquement, même cette colère positive articulée avec l'espoir et la peur, entre les deux, il y a notre vie psychique relationnelle, notre vie corporelle, notre vie relationnelle avec dans l'amour, dans le travail, dans tout ce qui est aussi affecté par la pandémie, et dont nous allons reparler après notre deuxième morceau de musique.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
À présent. À présent, l'après-coup de la pandémie a déjà commencé. Ce soir, nous en parlons avec Catherine Tourette-Turgis et François Enfermet. Catherine Tourette-Turgis qui nous propose la voix de Leonard Cohen que nous sommes en train d'entendre, que nous venons d'entendre, une voix qui vient, Catherine Tourette-Turgis, après ce que vous disiez sur la panne du désir, la panne de l'amour et de la politique entraînée par la pandémie. Vous allez peut-être nous dire pourquoi cette voix aide à y répondre. Et puis ensuite, je voudrais revenir, Catherine Tourette-Turgis, et avec François Enfermet aussi, sur les réponses. Et il me semble que dans un de vos articles, vous avez une remarque très forte sur l'idée d'un confinement inclusif aussi, pas traiter la population générale comme un bloc, mais justement s'adresser aux plus vulnérables, à ceux qui peuvent être particulièrement sujets aux pathologies que nous étudions. Mais je vous laisse, Catherine Tourette-Turgis, réagir aussi bien à Leonard Cohen qu'à la continuation de notre discussion avec François Enfermet ce soir.
Oui, merci. Leonard Cohen, voilà, je voulais de l'émotion, ce besoin émotionnel que une épidémie, c'est pas rationnel et on est privé de ces moments là un peu d'allégresse et voilà, donc j'ai envie de partager ça. Par rapport au confinement inclusif, oui, moi ce qui m'avait frappé dès les premiers jours de confinement, c'est que qu'est-ce qu'on fait des sans domicile fixe? Où est-ce qu'ils se confinent? Comment tout d'un coup ils se sont trouvés justement à devoir survivre? Ils n'avaient plus rien à manger, puisque même si de toute façon, même s'ils restaient dans la rue, il n'y avait plus personne dans les rues. Je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Donc,
Qui vient de paraître à leur sujet et qui s'appelle Les Inconfinables de Julien Damon. Un livre, Les Inconfinables. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression aussi?
C'est formidable. Ah, oui, je vous remercie, Frédéric Worms. Je vais m'empresser d'aller le chercher.
Parce que c'est vrai, ils sont dehors, ils n'ont pas de chez soi où se confiner, où confiner ceux qui sont sans logis, ceux qui sont sans abri.
Oui, ce qui m'a frappé aussi, moi, c'est pourquoi, quand il y a eu l'annonce du confinement, on n'a pas préparé les gens à prendre la décision avec qui je me confine. Ce qui fait que la femme qui était en danger aurait pu dire ou réfléchir, elle aurait eu le temps, on ne lui a pas laissé le temps. On a fait comme si les adresses étaient les adresses, monsieur et madame, vous habitez là, donc c'est là. Ben non, parce qu'en plus, il fallait des preuves d'identité matrimoniale, enfin des choses. Donc elle aurait pu dire, je vais chez ma sœur, je sais pas, je vais... les enfants, enfin, c'est pas parce qu'il y avait confinement qu'il n'y avait pas de démocratie. Si on avait choisi le lieu où on avait pu se confiner. Donc, bien sûr que ce n'était pas interdit, mais il fallait une campagne d'emblée. Il fallait dire, vous avez 24 heures, pour que les gens... Il fallait tout de suite des anges gardiens, des accompagnateurs, que ça soit posé par les médias et autres, en disant, faisons attention les uns et les autres, si vous connaissez, organisez-vous, etc. Donc ça, je crois aussi que c'est des choses qui sont complètement simples, qui ne coûtent pas... un centime, de mettre en place tout de suite du care, enfin de quelque chose qui est prendre soin de là où ça va faire danger. Parce que pour certains, l'observance du confinement les a mis en danger, voire à risque.
Bien sûr.
Y a, donc, notamment par rapport à la violence. Et puis l'inclusif, c'est aussi penser à peut-être, ça a été genré, cette épidémie elle sera genrée, c'est-à-dire que par exemple les femmes ont un stress mental beaucoup plus important, elles ont beaucoup fait plus, elles ont plus, mais on découvre aussi dans la prévention, et ça c'est au niveau international, que les femmes adoptent plus les mesures de prévention. Donc il y a aussi sûrement là quelque chose qu'il va falloir apprendre.
Décrypter après coup là aussi.
Oui, c'est aussi ça l'espoir, hein, c'est que cette épidémie va nous apprendre beaucoup de choses, bouleverser des choses finalement qui n'étaient pas très intéressantes à garder, des choses, je ne sais pas, des discours, des philosophies qui étaient peut-être finalement déprimantes. Vous voyez, on va faire d'autres choix aussi.
J'espère qu'on va se tourner vers les bonnes philosophies pour répondre à l'époque. Catherine Tourette-Turgis, vous venez d'évoquer le début du confinement aussi, et on retrouve la dimension temporelle finalement, c'est cet impératif qui est tombé sans nous laisser de temps, un peu comme le volcan du Vésuve a figé les habitants de Pompéi dans l'attitude où ils étaient. Voilà, alors on était à tel endroit avec telle personne et on est figé là et on n'a pas le temps de réagir. François Ansermet, vous pensez vous aussi que finalement il y aurait pu avoir une marge qui aurait pu être à la fois sociale, politique, psychique, intime, et qu'au fond, il faut entre la population générale, finalement, comme un tout, et les sujets individuels, il y a aussi des groupes, des catégories plus vulnérables que d'autres. Justement, là, on parlait des femmes et des hommes, des enfants et des vieux. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur les vulnérabilités des enfants, même. On en parle très peu. Leurs peurs, leurs angoisses face à la responsabilité qu'ils ont eue, par exemple, quand on fermait les écoles, François Ansermet.
Oui, effectivement, les enfants ont eu plusieurs rôles dans cette aventure pandémique qui n'est pas terminée. Mmh. On les a considérés comme responsables et porteurs sains. Ouais. Ensuite, on a dit que c'était plus le cas. Au fond, je crois que là, c'est une dimension qui peut aussi les stigmatiser, créer presque une ségrégation des enfants, peut-être aussi introduire une crise générationnelle qui pourrait être inquiétante, c'est-à-dire que les rapports entre les générations est complètement bouleversé par cette incidence de la pandémie et du risque infectieux. Et au fond, par rapport à ça, je pense que le point majeur, c'est qu'on est... Au fond, ça nous a surpris par rapport à votre question, Frédéric Vorms.
Oui, le coup qui tombe.
Le gouvernement a été surpris. Ouais. Le monde a été surpris, mais curieusement surpris par quelque chose que dans une certaine mesure on connaissait, puisque après chacun s'est penché sur la littérature de Camus en allant jusqu'à Thucydide, sur la peste d'Athènes dans les guerres du Péloponnèse. Au fond, toute l'histoire n'a été faite que des grandes peurs en Occident, des grandes peurs dans le monde, partout, et qu'au fond on a cette tension entre quelque chose qu'on ne savait pas et quelque chose qu'en fait on a compris qu'on savait. Mais en même temps, l'action autour de ça, elle n'est pas à l'abri du savoir, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas l'appui sur le savoir. Et ça, je pense que ça crée une dimension d'incertitude qui est au cœur du débat que nous avons. Et que par rapport à l'incertitude, il faut peut-être distinguer une incertitude destructrice, une incertitude de mort, et peut-être une incertitude de vie, une incertitude créatrice. L'incertitude de mort, c'est l'angoisse, c'est l'irreprésentable, c'est l'impensable, c'est ce qu'on ne peut pas saisir. Et puis l'incertitude de vie, elle est aussi là. Je crois que la dialectique entre pulsion de vie et pulsion de mort, on peut la retrouver dans l'attitude par rapport à la pandémie. Et comme le disait Catherine Tourette-Turgis, peut-être qu'on va changer avec ça. Hein, c'est-à-dire peut-être c'est trop optimiste de dire ça, mais il y a peut-être une créativité qui peut résulter de cette aventure qui prend plutôt des allures de catastrophe.
Mais alors, justement, François Fermel, là, vous opposiez la vie et la mort, l'incertitude de mort et l'incertitude de vie. On va consacrer les cinq dernières minutes de notre discussion commune à se tourner vers plutôt la vie. Vous citiez Freud tout à l'heure, la psychanalyse. Vous me rappeliez, en marge de cette conversation, que Freud a écrit son texte sur la vie et la mort, les pulsions de vie et de mort à la suite de la guerre, mais aussi de la mort de sa fille, de la grippe espagnole, cette sorte de double double peine catastrophique après la Première Guerre mondiale. Comment est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il faut faire comme lui ? C'est-à-dire aussi l'incertitude de vie, ça passe par la création artistique, sociale, intellectuelle, la parole, là où l'on est, pas se prendre pour Freud ou Mozart, mais finalement quand même agir, être soi-même, au fond, François Ansermet.
Oui, mais peut-être se prendre pour Freud, c'est une façon d'être soi-même, si on veut dire les choses de façon amusante. C'est-à-dire que là, c'était troublant de suivre la correspondance de Freud, effectivement, qui a eu la guerre 14-18, puis la grippe de 18, et la mort de sa fille, et une transformation majeure de sa théorisation du traumatisme, et des forces de vie et des forces de mort, de sa dialectique pulsionnelle, dans, au-delà du principe de plaisir, qui malheureusement aboutit à malaise dans la civilisation, et pourquoi la guerre, enfin, où il a pu définir aussi ses forces
pourquoi
de destruction.
Pourquoi malheureusement, François Ansermet ?
Non, je dis malheureusement parce qu'il avait raison.
Ah, d'accord.
Il avait raison de dire qu'il y a un malaise dans la civilisation. Il avait raison de dire ce paradoxe que Freud isole dans Pourquoi la guerre, qui est que l'homme détruit son prochain pour se sauver lui-même. Mmh. Donc, il y a au fond une force là, contradictoire. Mais peut-être qu'on doit être dialectique entre ces dimensions destructrices et ces dimensions créatrices. Mmh. L'issue, ça n'est pas, c'est certainement pas un retour à l'état antérieur, mais plutôt aller vers un nouvel état, différent. Un plan Guilhem sur le normal et pathologique disait des nouvelles allures de la vie.
Oui, il disait la guérison n'est pas le retour à l'état antérieur, justement.
Absolument, absolument. C'est pas le retour à l'état antérieur, c'est l'invention de nouvelles normes. Et j'aime beaucoup cette expression de nouvelles allures de la vie. Est-ce que, par-delà cette pandémie, par-delà cette catastrophe à la fois épidémiologique, mais de santé publique, mais aussi politique et sociale, on va pouvoir inventer des nouvelles pratiques du quotidien, des nouvelles valeurs, bricoler une nouvelle vie, de nouveaux rêves.
Alors, on espère, mais on se donne les moyens de le faire, un peu comme le théoricien qui a le courage d'affronter la mort, de la guerre, et c'est quand même créateur d'affronter aussi la destruction par la pensée. Catherine Tourette-Turgis, vous disiez un peu la même chose que ce que François Ansermet vient de dire autrement, c'est-à-dire en disant, au fond, on va abandonner un peu, il va y avoir une sorte de tri post-pandémie, on va abandonner des fausses idées, des faux problèmes, peut-être se tourner vers des vrais problèmes, affronter nos vrais problèmes sociaux, qui sont tous ressortis finalement. Catherine Tourette-Turgis.
Oui.
Vous avez écrit d'ailleurs un livre, je le rappelle, qui s'intitule « La maladie comme occasion d'apprentissage ».
Oh, c'est extraordinaire, j'allais justement aller là-dessus. Moi, j'ai travaillé pendant 30-40 ans avec des malades chroniques, donc peut-être que nous avons à apprendre de l'expérience quotidienne des 1 million de malades chroniques en France. Qui, eux, vit avec l'incertitude.
Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro, Catherine Tourette-Turgis ? Le son est un peu parti un peu plus loin. Voilà, si vous pouvez. Merci.
Oui. Merci. Peut-être nous avons à apprendre immédiatement de l'expérience quotidienne que vivent 20 millions de Français malades chroniques. C'est-à-dire qu'ils vivent avec l'incertitude, avec des moments de rémission, avec des moments éventuellement de rechute, de poussée. Donc, ils ont cette expérience-là. Et d'ailleurs, dès le début du confinement, l'Université des Patients, les malades chroniques nous ont appelés en disant « Oh, ça nous fait penser à ce que nous avons vécu. » Nous aussi, il y a eu des moments où on a été confinés parce qu'on était en attente de greffe, on était hospitalisés pour tel ou tel traitement, il fallait qu'on soit sans contact aucun, avec des vitrines dans un hôpital, etc. Donc, peut-être que là, les nouveaux héros, ce sont peut-être les malades chroniques. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on a à apprendre, vous voyez. Parce que finalement, on a cru qu'on était valide, et puis la société, elle était quand même construite par les valides, entre les valides. Et puis, tout ce qui était maladie, ma foi, c'était juste du bénéficiaire social, vous voyez. Ça n'avait pas de figure d'héroïsme, rien du tout. Peut-être que là, il faut un petit peu changer les choses.
Mais justement, en donnant aux patients, c'est-à-dire à tout le monde, finalement, maintenant, le pouvoir de choisir cette nouvelle norme de vie, cette nouvelle allure de vie dont parlait François Ansermet, c'est-à-dire, au fond, le malade chronique retrouve une capacité à construire sa propre vie grâce au traitement. La maladie n'a pas disparu, un peu comme la pandémie, ou un peu comme le sida ou la grippe ne disparaîtra passera probablement pas totalement, jamais, mais on doit pouvoir non seulement vivre avec, parce qu'on dit souvent ça un peu de l'extérieur, tu vas vivre avec, c'est un peu injonctif comme ça, mais on va pouvoir, chacun va devoir inventer sa propre vie, et c'est là que cette vie devient véritablement vivante, Catherine Tourette-Surgis.
Elle devient vivante, elle est affectée, elle est bouleversée, elle est vulnérabilisée, elle est fragile, elle est forte à la fois, et c'est une vie qui vaut une vie.
Une vie qui vaut toutes les vies. François, chaque vie valant toutes les vies, effectivement, un homme comme tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est aussi la dernière phrase des mots de Jean-Paul Sartre. François Ansermet, on s'approche aussi de la conclusion de cette conversation. Pour arriver à faire surgir depuis le sujet lui-même cette possibilité de vivre avec, mais cette possibilité personnelle de vivre avec, il faut aussi le langage, il faut aussi le soin, la thérapeutique. Catherine Tourette-Surgis parlait de l'éducation thérapeutique. Au fond, la parole, pour vous, c'est aussi une forme d'accès à soi-même.
C'est sûr, la parole, l'enjeu de la parole, une pratique de la parole, mais pas seulement, c'est aussi se servir de l'impossible, se servir de cet accident du destin, exploiter l'impossible pour ouvrir de nouveaux possibles. Hein, je pense qu'on pourrait dire d'un côté, il y a la mort en jeu qui met un terme à la vie, mais de l'autre côté, il y a la mort qui sous-tend la vie, la mort comme condition d'une nouvelle liberté, et que je pense que chaque sujet peut faire cette expérience d'un retournement et le pari de la mort qui sous-tend la vie, par-delà la mort qui met fin à la vie. Et c'est d'ailleurs les malades et les malades chroniques nous enseignent souvent de façon surprenante cette dimension.
Et vous pensez que vous pensez que cet après-coup positif, lui aussi, a déjà commencé en un mot, François Ansermet, cet après-coup aussi est possible.
Je pense que quand un sujet se met en confrontation avec ce point de crise, quand il admet la crise est une croisée des chemins. Dès lors que c'est une croisée des chemins, il y a l'ouverture vers un possible.
Merci beaucoup à vous deux, Catherine Tourette-Surgis et François Ansermet, pour cette discussion autour de l'après-coup de la pandémie qui a déjà commencé, mais peut-être pas seulement pour le pire. À présent, ce soir, nous avons discuté pour savoir si l'après-coup de la pandémie avait déjà commencé avec Catherine Tourette-Surgis, professeure à Sorbonne Université, présidente de l'Université des Patients, et avec François Ansermet, professeur de psychiatrie à Genève et auteur de nombreux livres et psychanalyste. Et puis, cette émission a été aussi possible grâce à Alexandre Dang, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Souad Boukoursa, Julien Calvas, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vance.